Voilà, alors bonjour, bienvenue. Nous allons poursuivre la lecture, courageusement. Alors, cette fois-ci, donc, pour celles qui l'ont, donc ça sera la fin du chapitre 3 sur l'annonce de l'Évangile, sur l'homélie et les préparations, la préparation de la prédication. Voilà. Alors, vous pourrez penser peut-être que ça ne vous concerne pas directement la préparation de la prédication, mais on va voir ça. Et puis après, donc, la fois prochaine, ça sera le chapitre 4, la dimension sociale de l'évangélisation, et la fois suivante, le chapitre 5, évangélisateur avec l'esprit. Donc voilà. Alors, si vous avez beaucoup de questions, je m'arrêterai à ce qui concerne l'homélie, la préparation de la prédication. Si vous n'avez pas trop de questions, alors cet après-midi, je vous ferai une présentation un peu générale de la lettre du pape sur la famille. Voilà. Comme ce n'est pas très loin, je ne voulais pas commencer l'autre chapitre, etc. Mais éventuellement, je vous ferai cette présentation, sauf si vous ne voulez pas du tout.
On attendra la fin de l'enseignement.
D'accord, oui. Voilà. Oh, ça fait des glouglous. Ça vous gêne ou pas? Oui, vous pouvez l'arrêter, vous le remettrez à la fin. Voilà. Voilà. Alors, sur l'homélie. Mais venez donc. Alors, le pape François accorde quand même pas mal de pages à l'homélie, ce qui montre l'importance qu'il y attache. Hein, vous verrez, il y en a quand même quelques pages. Alors, il le fait aussi, parce que ça, c'est important pour lui d'abord, et puis aussi le pape Benoît XVI, quand il avait fait un document sur la parole de Dieu, à la suite d'un synode, avait dit « Ah, ce serait bien de faire un directoire sur l'homélie ». Et donc, il y a un directoire qui est paru sur l'homélie en 2014, donc après l'élection du pape François, et qui prend déjà en considération certains éléments que donne le pape François. Alors, voilà ce qui est dit, par exemple. Nous savons que les fidèles donnent beaucoup d'importance à l'homélie, et ceux-ci, comme les ministres ordonnés eux-mêmes, souffrent souvent les uns d'écouter, les autres de prêcher. Voilà. Et il est triste qu'il en soit ainsi. L'homélie peut être vraiment une intense et heureuse expérience de l'esprit, une rencontre réconfortante avec la parole, une source constante de renouveau et de croissance. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette association Optimiser les homélies. Ça vous dit quelque chose? Alors oui, il y en a dans le diocèse. Oui, exactement, il y en a à Senlis, justement. Mais alors, initialement, c'est un professeur de chirurgie, je crois. Il en avait un peu assez que des homélies de son curé. Mais alors, quelle a été sa réaction? Une réaction que je vous propose en exemple. Soit critiquer avec les autres, dire vraiment il nous endort, voilà. Non, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon pauvre curé qui n'est pas très doué pour prêcher. Et du coup, il a monté une association, alors après ça fait un peu tache d'huile, pour donner des conseils aux prêtres pour prêcher. Alors, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais l'homélie, c'est quand même une occasion très importante, parce qu'il y a des gens, c'est le seul lieu où ils vont avoir un tout petit peu de formation dans leur vie chrétienne. Alors, bon, c'est un peu dommage de manquer ce rendez-vous. Et alors, dans cette association, ils ne se placent pas tellement au niveau du contenu, ils laissent ça le soin aux prêtres de voir si le contenu théologiquement est juste, etc. Donc, ce n'est pas leur angle d'attaque, c'est plutôt la forme. Comment faire que ça soit que les gens prennent plus de plaisir à écouter ou retiennent quelque chose, un peu plus quelque chose, ou voilà. Alors bon, après on fait ce qu'on peut, hein, comme prêtre pour prêcher, mais alors j'ai participé, alors c'est pas pour autant que j'ai encore des progrès à faire, mais on a fait une session ici. Alors tous les frères de la communauté n'ont pas participé, tous les prêtres de la communauté n'ont pas participé, mais plusieurs ont participé et personnellement ça m'a fait du bien. Voilà. Alors, tout ça pour dire que vous pouvez aider les prêtres aussi à s'améliorer dans leur homélie. Pas d'abord en critiquant, parce que ça, mais plutôt en suggérant peut-être des pistes pour progresser. Parce que, comme dit, il est triste que, justement, souvent, la laïque souffre d'écouter et puis les autres souffrent de prêcher. Un peu dommage. Alors, j'aime bien cette expression du pape François, mais voilà, alors... Quand il y a des difficultés, ça c'est beaucoup plus large, plutôt que de critiquer et tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, hein, on est dans une perspective quand même plus positive. Voilà, alors ça c'était un premier point. Voilà, donc ça c'était numéro 135. Autre élément quand même, dans le numéro 135, voilà ce que dit le pape François. L'homélie est la pierre de touche pour évaluer la proximité et la capacité de rencontre d'un pasteur avec son peuple. Pour lui, on voit bien que le pape François aime bien prêcher, et pour lui, c'est un lieu vraiment de proximité, où voilà, le pasteur est attentif à ce que son peuple peut, ce dont son peuple peut avoir besoin, et puis voilà. Ça, c'était le numéro 135. Numéro 136. Renouvelons notre confiance dans la prédication qui se fonde sur la conviction que c'est Dieu qui veut rejoindre les autres à travers le prédicateur. Voilà, Dieu peut parler directement aux gens, mais habituellement il aime bien se servir d'intermédiaire. Alors ça, c'est vrai notamment des pasteurs, hein, les évêques, les prêtres et les diacres aussi. Le prêtre, c'est, normalement, c'est comme une passerelle, un pont entre Dieu et les hommes. Normalement, d'une part, il doit transmettre au peuple de Dieu les paroles de Dieu. Et puis, le prêtre doit aussi prier pour son peuple, donc transmettre les paroles des hommes à Dieu, en quelque sorte. Donc, ça, c'est vraiment la mission du prêtre, mais c'est parce que Dieu a voulu les prêtres. Et le curé d'Ars le dit très bien, il dit à la fois que le prêtre est quelque chose de grand, et puis à la fois, il dit, mais le prêtre en lui-même, c'est pas grand-chose. Ce qui est important, c'est la grâce de Dieu en lui. Alors, il a des paroles... ce qui peuvent s'appliquer justement à la prédication. Vous faites passer de la liqueur par un entonnoir, qu'il soit d'or ou de cuivre, si la liqueur est bonne, elle est toujours bonne. Donc le prêtre, il est peut-être d'or ou de cuivre ou de plastique, mais l'important c'est que c'est Dieu qui vient rejoindre les gens, c'est ça qui est important. Voilà. Donc ça c'est... Donc c'est le numéro 136, Dieu veut servir des prédicateurs. Et voilà, alors aux prêtres de ne pas se dérober à cette mission, même s'ils ne savent pas toujours si bien s'y prendre, etc. Mais voilà, comment répondre à cette mission? Ça me fait penser à ce verset de saint Paul aux Romains, au chapitre 10, versets 13 à 15. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si l'on n'a pas mis sa foi en lui? Et comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Et comment entendre si personne ne le proclame? Alors donc, il faut vraiment... Alors ça, c'est vrai des prêtres dans la liturgie, on verra. Le point suivant, c'est le contexte liturgique de l'homélie. Mais c'est vrai aussi pour vous. Hein, Dieu ne se sert pas simplement des prêtres pour rejoindre les gens. Alors, dans la liturgie, il y a une place particulière, bien sûr, pour les prêtres, mais voilà. Et comment entendre si personne ne proclame? Ça, c'est vrai pour tous les baptisés. Alors, numéro 137, il traite du contexte liturgique de l'homélie et de la parole de Dieu. Et je trouve que c'est assez intéressant. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup. Alors, le pape François dit entre autres qu'une homélie, ce n'est pas comme une conférence, ce n'est pas d'abord une méditation, ce n'est pas... il le resitue parce que l'homélie, c'est dans le mouvement de la messe. Alors, je ne sais pas si... Une fois, j'avais parlé de la messe comme chemin de communion. Je ne sais pas si ça vous donne quelques souvenirs pour certaines. L'idée, personnellement, ça me parle au moins. Ça me parle au moins, moi, c'est déjà une chose. C'est que tout est orienté dans la messe pour ce moment de la communion avec le Seigneur. Et du coup, ça veut dire aussi que, sans entrer dans les détails maintenant, mais que la liturgie de la parole de Dieu est en vue de cette communion avec le Seigneur. Donc ça veut dire que l'écoute de la parole de Dieu, en général, mais encore plus dans la liturgie, c'est pas d'abord pour savoir des choses sur Dieu. C'est pas d'abord pour nourrir notre intelligence, même tant mieux si ça nourrit notre intelligence. Mais le but, c'est que ça fortifie notre communion avec Dieu. On le voit aussi dans nos relations entre nous. Notre communion, elle passe aussi par les paroles. Des paroles où on dit quelque chose de nous et Dieu, dans sa parole, dit quelque chose de lui. Et vous voyez dans la liturgie de la parole de Dieu, il y a d'abord la lecture de la parole de Dieu, après il y a l'homélie où le prêtre essaie de dire ce qu'il peut. Quand même, si possible, pour faire le lien entre la parole de Dieu et ce que les gens peuvent vivre, si possible. Et puis après, donc c'est comme la réponse par le credo, je crois en Dieu. Alors, c'est Dieu qui parle à l'homme, et avec le credo, c'est l'homme qui parle à Dieu, on pourrait dire. Ça se continue par la prière universelle où on lui présente toutes nos demandes. Donc, vous sentez que c'est un moment de, pour ainsi dire, de dialogue, mais qui est en vue de la communion. Et du coup, quand on parle du contexte liturgique de la parole de Dieu et de l'homélie en particulier, ça veut dire que l'homélie, elle doit être au service de la communion des gens avec Dieu. Donc c'est pas d'abord un enseignement, c'est pas d'abord, même s'il y a une part d'enseignement aussi dans l'homélie, et il n'y a pas un type d'homélie, il y a différentes manières de prêcher, mais la finalité, c'est quand même, ça doit s'inscrire vraiment dans le mouvement de la messe qui est de nous conduire à une communion plus grande avec le Seigneur. Si l'homélie doit viser quelque chose, c'est bien ça. Alors donc, c'est ce qu'il dit au numéro 137, plus ou moins, je vous lis pas tout, après vous pourrez le... Voilà ce qu'il dit. L'homélie a une valeur spéciale qui provient de son contexte liturgique, de son contexte eucharistique, qui dépasse toutes les catéchèses parce qu'elle est le moment le plus élevé du dialogue entre Dieu et son peuple avant la communion sacramentelle. L'homélie reprend ce dialogue qui est déjà engagé entre le Seigneur et son peuple. Celui qui prêche doit discerner le cœur de sa communauté pour chercher où est vivant et ardent le désir de Dieu et aussi où ce dialogue qui était amoureux a été étouffé ou n'a pas pu donner de fruits. Discerner le cœur de sa communauté, c'est une belle expression, pour voir où en sont les gens de leur désir de Dieu, pour animer ce désir de Dieu, pour servir à cette communion justement qui se vit dans la messe. Et alors, numéro 136, il parle de la longueur de l'homélie. Ah, il dit qu'il faut qu'elle fasse au moins 3 heures. Non. Alors, il évoque pas que la longueur, là, d'ailleurs, dans ce paragraphe. Il commence par ça. L'homélie ne peut pas être un spectacle de divertissement. Elle ne répond pas à la logique des moyens médiatiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ou je ne sais pas si vous avez vu, au moment de Noël, il y avait un prêtre philippin qui a été suspendu par son évêque. L'évêque l'a envoyé faire un tour dans un monastère, parce que pour la messe de Noël, je crois, il s'était mis sur une planche à roulettes électrique et il parcourait l'église avec son micro et tout ça. Alors, bien sûr, il y en a qui avaient filmé ça pendant la messe et ça fait le tour des... Voilà. Mais son évêque lui a dit, non, c'est pas vraiment le cadre, la messe, pour faire ça. Alors, vous pouvez quelquefois avoir un peu d'imagination, mais quand même, là, c'était un peu beaucoup. Voilà, alors, donc, c'est pas un spectacle de divertissement, mais elle doit donner ferveur et sens à la célébration. Alors, elle doit être brève et éviter de ressembler à une conférence ou à un cours. Le prédicateur peut être capable de maintenir l'intérêt des gens pendant une heure, mais alors sa parole devient plus importante que la célébration de la foi. Si l'homélie se prolonge trop, elle nuit à deux caractéristiques de la célébration liturgique, l'harmonie entre ses parties et son rythme. Voilà. Alors, après, il y en a peut-être qui peuvent prêcher plus ou moins longuement. Peut-être que c'est moins vrai en France, ce que dit le pape, encore que je ne sais pas. Mais je me rappelle en Italie en particulier, quelquefois l'homélie, il y avait une messe d'une demi-heure, mais sur la messe d'une demi-heure, l'homélie faisait 20 minutes. Quoi. Donc là, on comprend ce que veut dire le pape. Ça crée un déséquilibre. Du coup, après, on avait l'impression qu'il se dépêchait pour rattraper le temps perdu, entre guillemets. Donc voilà. Après, quand le pape dit elle doit éviter de ressembler une conférence à un cours, bien sûr, ce n'est pas une conférence. En même temps, il ne faut pas trop durcir ce que dit le pape, parce qu'il y a place pour des homélies de styles différents. On voit les homélies du pape François ne sont pas du tout les mêmes que celles du pape Benoît XVI. Mais les homélies du pape Benoît XVI, on aime encore s'en nourrir et tout ça, les reprendre, parce que c'est une autre manière de prêcher. Donc, il n'y a pas une forme d'homélie, donc il ne faut pas non plus trop durcir les choses. Donc, voilà. Alors, justement, dans le directoire pour l'homélie, qui a été rédigé il y a 2 ans, ça précise un peu ce que dit le pape François, et elle dit « L'homélie n'est pas un sermon sur un sujet abstrait. L'homélie n'est pas non plus un exercice d'exégèse biblique, même s'il peut y avoir des éléments d'exégèse, bien sûr. L'homélie n'est pas non plus un enseignement catéchétique, même si la catéchèse constitue un élément important de toute prédication. L'homélie ne doit pas être considérée comme un temps réservé au témoignage personnel de la part du prédicateur, même s'il est vrai que bien des personnes peuvent être profondément touchées par des témoignages. Il faut toujours veiller à ce que l'homélie exprime la foi de l'Église et non pas simplement l'histoire personnelle du prédicateur. Voilà. Mais l'homélie, justement, donc c'est au cercle, elle comporte, je vous relis un peu plus loin, il me semble. Voilà, alors ça c'est dans, c'est dans la présentation générale du missel romain. L'homélie doit expliquer un aspect des lectures scripturaires, ou bien un autre texte de l'ordinaire, ou du propre de la messe du jour, en tenant compte soit du mystère que l'on célèbre, soit des besoins particuliers des auditeurs. Ça peut être assez vaste, hein, l'homélie. Il peut y avoir une part d'enseignement, mais c'est dans la forme, vous revenez un petit peu en arrière à ce que j'essayais de dire, c'est pas d'abord pour former l'intelligence, c'est au service de la communion des gens avec Dieu, l'homélie. Alors ça passe aussi par l'intelligence, mais ça ne doit pas être exclusivement, c'est plus dans un sens, exclusivement adressé à l'intelligence des auditeurs. Mais aussi, quelque part les entraîner dans un mouvement où ils se donnent à Dieu. Hein, c'est ce qui est dans la prière eucharistique, Jésus se donne, mais on est appelé à se donner aussi. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut... Elle comporte ces éléments, mais que ces éléments ne soient pas exclusifs. Alors, justement, dans le paragraphe suivant, il dit que c'est comme la conversation d'une mère, au paragraphe 139. L'Église est mère et elle prêche au peuple comme une mère parle à son enfant, sachant que l'enfant a confiance que tout ce qu'elle lui enseigne sera pour son bien parce qu'il se sait aimé. Alors, c'est de voir un petit peu... En tout cas, il y a cette attention aux besoins de ceux qui sont présents. On ne sait pas toujours exactement quels sont les besoins des gens. Hein. On peut, mais on d'y être attentif au moins de... Qu'est-ce qui peut... Numéro 140... C'est aussi plus sur la forme de l'homélie. Le pape dit « On doit favoriser et cultiver ce milieu maternel et ecclésial dans lequel se développe le dialogue du Seigneur avec son peuple, moyennant la proximité du cœur du prédicateur, la chaleur de son ton de voix, la douceur du style de ses phrases, la joie de ses gestes. » Donc il faut faire des gestes, semble-t-il. Bon. Ça, c'est un Argentin qui parle, hein. c'est pas un Picard. Mais bon, même dans les cas où l'homélie est un peu ennuyeuse, si cet esprit maternel et ecclésial est perceptible, elle sera toujours féconde. Comme les conseils ennuyeux d'une mère donnent du fruit avec le temps dans le cœur de ses enfants. Plusieurs d'entre vous ont connu Père Jean. Et c'est clair que Père Jean, ce qu'on retenait d'une homélie, c'était moins le contenu que Père Jean, quelque part. Parce que dans sa manière de nous parler, c'est plus ça qui nous touchait que le contenu. Alors il y avait du contenu aussi dans ses homélies, mais c'est plus ça qui nous touchait. C'est plus sa manière d'être qui nous touchait, à la limite, que même le contenu. Ou je me rappelle aussi de Raniero Canta la Messa, ça veut dire chante la messe. Donc c'est le prédicateur de la maison pontificale. Alors, il y est depuis très longtemps, depuis 80, je crois. Donc, ça fait quand même quelques années. Mais le Vendredi Saint, ce n'est pas le pape qui prêche à Saint-Pierre, c'est lui. Mais alors, bon, il a étudié un peu la rhétorique, etc. aussi, mais il parle en italien avec flamme, etc. Les trois quarts des gens qui sont là ne comprennent pas l'italien. Mais ils sont émus quand ils l'entendent. c'était très touchant de voir les... Voilà. Alors c'est un peu de ça que dit le voilà la chaleur du ton de voix, ça c'était tout à fait ça, la douceur du style, les phrases, etc. Voilà. Je passe au numéro, ça va vite. Numéro 142. Alors ça revient un petit peu encore sur ce que j'ai déjà dit, un dialogue est beaucoup plus que la communication d'une vérité. Il se réalise par le goût de parler et par le bien concret qui se communique entre ceux qui s'aiment au moyen des paroles. La prédication purement moraliste ou endoctrinante, comme aussi celle qui se transforme en un cours d'exégèse, réduit cette communication entre les cœurs qui se fait dans l'homélie et qui doit avoir un caractère quasi sacramentel. Donc ça va toujours un peu dans le même sens. Hein. Alors, je passe au paragraphe 145 sur la préparation de la prédication, ce qui vous concerne beaucoup. Donc, il conseille aux prêtres d'y consacrer un temps prolongé. Voilà. Ah oui, vous connaissez cette histoire. C'est un curé de paroisse qui est un peu jaloux des prêtres charismatiques. On a l'impression qu'ils ont la parole facile et tout ça. Et Il suffit d'invoquer l'Esprit Saint et puis tout se passe bien. Voilà. Alors du coup, il a envie d'en faire autant et il décide de ne pas préparer son homélie et de demander sur le moment même à l'Esprit Saint ce qu'il doit dire. Alors au moment de l'homélie, il se met devant le micro et il dit intérieurement au Seigneur, « Esprit Saint, inspire-moi ce que je dois dire à mes paroissiens. » Et là, il entend une voix intérieure, « Dis-leur que tu es un fainéant. » Voilà. Alors, bien sûr, c'est l'Esprit Saint qui va... Mais ça ne dispense pas de travailler avant de préparer. Voilà.
Ça n'empêche pas de prier l'Esprit Saint pour le
prêtre. Oui, oui, vous pouvez... Ah ben, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien, à différents niveaux, mais... À vrai dire, ça, c'est quelque chose d'assez plus large dans notre vie. C'est entre l'œuvre de Dieu en nous et puis ce que nous, on doit faire. Hein, la grâce, pour nous, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel et puis nous, on est complètement passifs et inactifs. Bien sûr, Dieu nous précède toujours, ça c'est vrai, mais en même temps, alors je ne sais pas si l'image est tout à fait adéquate, mais vous connaissez les vélos électriques ? Si vous ne pédalez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous restez sur place. Et quelque part, mais si vous pédalez, ben ça vous donne d'aller plus vite, moins, en vous fatiguant moins, etc. Il y a quelque chose de ça dans la grâce. Si vous ne bougez pas, si vous n'avez pas au moins ce désir, etc., c'est déjà un peu Dieu qui nous le met en nous, mais il y a besoin de notre participation. Et pour l'homélie, c'est pareil. Alors, bien sûr qu'il faut prier le prêtre pour qu'il ait le courage de préparer, déjà, qu'il ait peut-être les images qui lui viennent, etc. Mais en même temps, ça, bien sûr, ça ne dispense pas de... Il faut dire aussi que quelquefois, de fait, certaines fois, on n'a pas toujours le temps de préparer comme on aimerait. Et quelquefois, étonnamment, le bon Dieu supplée vraiment à nos incapacités. Et puis voilà, on voit le... Mais en règle générale, bon, ça demande quand même de préparer après. Bon, on fait comme on peut. Et puis voilà. Alors, du coup, pour cette préparation, ce que le pape... ce à quoi le pape invite beaucoup, c'est déjà de lire la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez que je développe un petit peu pourquoi lire la parole de Dieu? Je peux donner, ça sera bref. Hein. Lire la parole de Dieu, c'est important parce que la prière, c'est pas d'abord nous qui parlons à Dieu, c'est d'abord Dieu qui nous parle. Sinon, la prière chrétienne, c'est d'abord écouter Dieu. C'est pas d'abord parler à Dieu. Ce qui est premier dans la prière chrétienne, c'est d'écouter Dieu. Et il nous parle, ça peut sembler élémentaire, mais dans sa parole d'abord. Bon, il nous parle par les événements, par les autres, etc. Mais il nous parle d'abord par sa parole. Mais du coup, dans la prière, on tourne en rond si on ne lit pas la parole de Dieu. Donc c'est parce qu'on est seul avec soi-même, finalement ça peut être un monologue. La prière, si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, donc c'est essentiel de se nourrir de la parole de Dieu. Certaines ont peut-être connu le père Caffarel. Le père Caffarel, donc, il était à Troussure. Et il y avait un passage obligé pour aller à la chapelle. On passait par une salle. Et dans cette salle, il y avait des petits bureaux avec des chaises, bien sûr, avec une Bible et un vocabulaire de théologie biblique. Mais c'était très parlant aussi dans la disposition. D'abord, tu lis la parole de Dieu. Après, tu vas faire oraison dans la chapelle. C'était un peu ça le sens de... Et je crois que c'est très vrai aussi. C'est important de lire la parole de Dieu déjà pour ça. Déjà, lire la parole de Dieu aussi parce que ça nous permet de nous familiariser avec sa pensée. Si on n'écoute que le journal télévisé, ben, on ne sera pas tellement familiarisé avec la pensée de Dieu, mais plutôt la pensée des hommes. Alors, la parole de Dieu, c'est vraiment le lieu où on se familiarise petit à petit avec les manières de penser, d'être, de Dieu. D'agir de Dieu. Alors, il y a souvent cette image aussi pour la parole de Dieu qui est comme une nourriture. publique la messe, c'est la table de la parole et du corps de Jésus, les deux tables. Une nourriture pas seulement pour l'intelligence, mais pour le cœur. Alors, je passe un peu plus loin, numéro 146, le culte de la vérité. Dans ce paragraphe, le pape nous invite beaucoup à travailler. Le premier pas, après avoir invoqué l'Esprit Saint, consiste à prêter toute l'attention au texte biblique, qui doit être le fondement de la prédication. Alors ça, je vous le dis parce que ce n'est pas simplement vrai pour le prêtre, c'est vrai pour vous. Dans le sens où, quand on s'approche de la parole de Dieu, la première chose, c'est d'essayer de comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Alors pour ça, donc il y a une attitude aussi, on ne va pas plaquer ses idées sur la parole de Dieu, sinon on écoutera ce qu'on a envie d'entendre. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire? Et pour ça, c'est bien d'avoir une Bible avec des notes, par exemple, comme ça, parce que ça nous aide à mieux comprendre ce que l'auteur a voulu dire, c'est d'avoir des commentaires de la parole de Dieu, de prendre du temps aussi, tout simplement, comme dit le pape. Ce n'est pas la peine de se consacrer à lire un texte biblique si on veut obtenir des résultats rapides, faciles ou immédiats. Il faut savoir prendre du temps pour écouter, lire la parole de Dieu. Mais ce que je trouve important, et on va continuer à insister un peu là-dessus, c'est dans la parole de Dieu déjà d'essayer de prendre les moyens aussi pour mieux la connaître. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'avoir fait des études pour commencer à lire la parole de Dieu. On commence et puis après ça vient au fur et à mesure, mais il y a des commentaires bibliques qui peuvent beaucoup nous aider à ça, donc c'est dommage de s'en priver. Et alors, pour comprendre la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle d'abord connaître le sens littéral. Toujours, toujours, il faut partir du sens littéral. Alors, qu'est-ce que c'est que le sens littéral? Alors, ça, c'est plus au numéro 147. Alors, le sens littéral n'est pas le sens littéraliste. Je ne sais pas si je vais expliquer, peut-être. Le sens littéraliste, c'est celui auquel s'attachent les fondamentalistes. Par exemple, les témoins de Jéhovah qui ne veulent pas de transfusion sanguine. Voilà, ça c'est du littéralisme. Voilà. Mais le sens littéral, c'est qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Donc, c'est, ça, comme le dit le pape, c'est... Je ne sais plus à quel endroit, mais ce qui est évident, c'est que ces textes ont été écrits dans une autre culture que la nôtre. Donc, nous, il faut qu'on fasse un effort pour se mettre un peu dans une autre culture, pour comprendre qu'est-ce que l'auteur humain, déjà, et l'auteur divin, c'est je ne vais peut-être pas développer sur l'inspiration des Écritures, mais Dieu est passé par un homme qui... Mettons Saint-Marc, il est écrit avec sa personnalité, etc. Alors nous, c'est important de voir qu'est-ce que Saint-Marc avait en tête quand il a écrit ça. C'est ça, essayer de trouver le sens littéral, c'est qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Parce que j'ai... Et du coup, le sens littéral, c'est pas du tout l'idée, c'est de faire une traduction mot à mot. Alors je prends deux, trois exemples. Bon, il y en a qui seront assez parlants, je pense, Quand Saint-Luc dit « Ayez la ceinture aux reins », qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit qu'il ne faut pas porter de bretelles. C'est pas ça son but. C'est dans la mentalité, c'est « Ayez une attitude de disponibilité ». Donc, alors peut-être dans la traduction, on mettra « Ayez la ceinture aux reins », mais nous, pour le sens littéral, c'est pas d'avoir une ceinture. Le sens littéral... c'est « soyez disponible », ayez une attitude de disponibilité. Ou alors, quand Jésus dit « si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer ». Quel est le sens littéral? Vous voulez fallait appliquer le sens littéral. Ben, j'espère que vous voulez appliquer le sens littéral, mais pas le sens littéraliste. Alors, du coup, il y a aussi des genres littéraires dans la Bible. Alors là, il y a une forme d'hyperbole quand même. Voilà, mais Jésus ne veut pas dire de prendre au mot exactement. Donc le sens littéral, ce n'est pas faire exactement ce que dit le texte matériellement. C'est entrer dans qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il a dit ça. Sinon, il n'aurait plus d'apôtres que des borgnes pour le suivre. Voilà. Et donc, les apôtres ont bien compris dès le départ qu'il ne voulait pas dire forcément matériellement de s'enlever l'œil sitôt qu'on avait mal regardé quelqu'un. Donc, c'est important de se mettre... Alors, du coup, ça impose de connaître un peu mieux ce que c'est que les genres littéraires, etc. La Genèse, par exemple, lire la Genèse, c'est pas, il ne faut pas le lire comme si quelqu'un était là avec son bloc-notes pour regarder ce qui se passait au moment de la création, etc. C'est pas le genre littéraire. Alors, ces textes nous transmettent une vérité profonde. C'est des textes magnifiques. Quand on prend les trois premiers chapitres de la Genèse, c'est des textes magnifiques. Mais il ne faut pas les prendre avec... comme si c'était une rédaction scientifique, c'est pas leur... Donc, toujours le sens littéral, c'est se mettre dans la tête qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Quand il a écrit ça, qu'est-ce qu'il voulait dire. Et ça, c'est... Alors ça, c'est vrai pour le prêtre qui va prêcher, de revenir toujours au sens littéral, mais c'est vrai pour nous aussi quand on est dans la prière, toujours revenir au sens littéral. Et pour ça, ce qui nous aide à ça, notamment, c'est quand même beaucoup les exégètes, qui essaie de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Donc ça, c'est l'exégèse a un rôle important. Autre exemple, quand Jésus dit qu'il est la vigne, hein, il dit pas qu'il est un sarment. Voilà. Et donc on voit qu'il y a des genres littéraires aussi dans notre. Si votre mari vous dit ma biche, il dit pas que vous êtes un quadrupède. Voilà. Donc, toute la question des genres littéraires, etc., et de la culture dans laquelle ont été écrits les textes, c'est quelque chose qui est très important. Vous voulez une petite histoire? Oui, vous la connaissez peut-être, hein, mais un théologien longe une église où un groupe charismatique est en pleine louange. Alors, intrigué, c'est un exégète certainement. Intrigué, il entre pour s'informer. Nous louons le Seigneur parce qu'il a ouvert les eaux de la mer Rouge au peuple d'Israël. Immédiatement, le théologien intervient publiquement, il prend le micro pour expliquer comment les choses se sont vraisemblablement passées. C'était la mer des joncs qui était peu profonde et Moïse connaissait les bons passages, etc., etc. Alors l'enthousiasme de l'assemblée en est totalement refroidi. Et le théologien sort de l'église, heureux d'avoir contribué à éclairer des chrétiens sur la compréhension de l'écriture. Mais à peine sorti, il entend la louange reprendre de plus belle. Alors il revient et il les interroge. Mais nous louons le Seigneur parce que malgré la faible profondeur de l'eau, il a noyé toute l'armée de Pharaon. Alors là, pauvre exégète. Voilà, alors, donc c'est... Voilà. Bon. Alors, il y a trois principes, nous donne le catéchisme, pour interpréter les Saintes Écritures. Et ça, c'est important pour nous tous. Premier, c'est... porter une grande attention au contenu et à l'unité de toute l'écriture. Sinon, on prend un verset de la Bible, mais un grand principe, c'est la Bible qui explique la Bible. On ne peut pas extrapoler un verset qui nous arrange et qui va en contradiction avec d'autres versets. Et justement, s'il y a une apparente contradiction, il faut essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Mais voilà, donc... On lit la Bible par la Bible. Il y a une unité dans la Bible. C'est Dieu, il ne se contredit pas. Alors, quelquefois, on a un peu de mal, on a l'impression que ça se contredit un peu, mais justement, c'est une incitation à approfondir. Deuxièmement, alors ça, c'est vrai particulièrement pour l'Église catholique, lire l'Écriture dans la tradition vivante de toute l'Église. Ce n'est pas la sola scriptura, ce n'est pas juste l'écriture il y a 2000 ans, et puis nous on vient avec nos gros sabots et puis on invente tout. C'est que cette parole de Dieu, elle nous a été transmise par d'autres gens qui l'ont méditée avant nous, et nous on se coule dans ce mouvement. Ça va dans le sens de cette parole de Saint Jean qu'on écoute dans ces jours-ci. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alors, c'est petit à petit, on découvre, et l'Église, donc, par les croyants qui nous ont précédés, découvre justement ce qui est contenu déjà dans la parole de Dieu. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alors, bien sûr, le magistère de l'Église, qui est l'interprète de la parole de Dieu, n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Il est à son service, ça c'est clair. Mais voilà, donc il y a toujours ce lien. L'Écriture, on ne la lit pas tout seul dans notre coin. On la lit portée par une tradition. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que sont les notes des Bibles. Normalement, elles sont nourries de la tradition de l'Église. Et voilà. Qui nous aide à lire dans un sens juste. Puis après, troisième point, alors je ne sais pas si cette expression vous est familière, être attentif à l'analogie de la foi. Alors, dans l'analogie de la foi, c'est la cohérence de la doctrine des vérités de la foi. Ça ne se contredit pas. Alors, c'est vrai que ça, c'est un point important dans notre foi. Souvent, quand on attaque quelque chose dans la foi, on réalise pas toutes les répercussions parce qu'il y a vraiment une unité dans notre foi, dans les vérités de la foi. Donc, il y a ces trois éléments qui peuvent nous aider, qui sont des critères pour interpréter l'Écriture. Donc, la cohérence de la parole de Dieu, la tradition et puis la cohérence aussi de des vérités de la foi. Tout à l'heure, je vous ai parlé du sens littéral. Il n'y a pas que le sens littéral, c'est le premier sens dont on parle, mais il y a aussi le sens spirituel. Alors ça, vous pouvez retrouver ça aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, qui le premier sens, là, ça reste toujours le sens littéral. Je vais aller assez vite là pour. Vous connaissez ce qu'on appelle la lectio divina un peu. La lectio divina, c'est une lecture priante de la parole de Dieu. Alors, il y a plusieurs étapes. Alors, selon les auteurs, ça change un peu. Benoît XVI en avait présenté 5. Traditionnellement, on en met 4, mais bon, peu importe. La première étape, c'est toujours la lecture. Et la lecture, ça correspond plus à la recherche du sens littéral. Et voilà. La deuxième étape, c'est davantage la méditation, et alors là on recherche davantage le sens spirituel. Alors ça va dans trois sens traditionnellement, c'est déjà le sens allégorique, par exemple la traversée de la mer Rouge. Alors il y a le sens littéral, ce qui s'est passé à ce moment là il n'y avait pas beaucoup d'eau, mais mais bon, Dieu les a noyés quand même, enfin bon, peu importe. Il y a le sens littéral, mais après, le sens allégorique, c'est ce que ça annonce vis-à-vis de Jésus. Et alors, pour nous, on lit toujours ce passage pendant la veillée pascale, parce que nous, ça nous annonce le passage de la mort à la vie. Hein, ça nous annonce le baptême. Hein, donc ça, c'est un sens allégorique. Ça fait partie du sens spirituel. Un deuxième sens, c'est le sens moral. Parce que, justement, la parole de Dieu, elle ne nous invite pas à rester... elle nous invite à un certain comportement devant ce qu'on peut contempler dans la parole de Dieu. Et puis, à ce qu'on appelle un sens anagogique. C'est de voir, ça nous projette déjà vers la vie éternelle. Alors, il y a un distique médiéval qui résume ces quatre sens. Le sens littéral enseigne les événements, l'allégorie ce qu'il faut croire, hein, donc on va un peu plus loin, le sens moral ce qu'il faut faire, et l'anagogie vers quoi il faut tendre. Je répète. Alors, le sens littéral enseigne les événements. L'allégorie, ce qu'il faut croire. Le sens moral, ce qu'il faut faire. L'anagogie. Le vocabulaire. L'anagogie, vers quoi il faut tendre. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, déjà vous pouvez aller dans le catéchisme, ça c'est dans les numéros 115 à 119 du catéchisme de l'Église catholique, que vous avez sur votre table de nuit, bien entendu. Oui. Exactement. Le sens spirituel, il y a un peu ces trois éléments. Traditionnellement, après, il peut y avoir des manières différentes de présenter les choses. Après, le pape...
Dans méditation et sens spirituel, il y a les trois premières.
Alors, oui, la méditation, justement, on entre davantage dans le sens spirituel par la méditation. Bon, je vous en dirai deux mots cet après-midi, je vais peut-être conclure maintenant, je vais vous laisser maintenant, je conclurai et puis je terminerai, et puis je vous présenterai le document du pape. Ça vous va ?
Sur la famille ?
Sur la famille.
Non, parce que
là,
vous avez dit qu'il y avait cinq étapes,
quatre étapes. Alors, je vais aller jusqu'au bout de ça au moins. C'est la lectio, la lecture, deuxième, c'est les mots latins. Deuxième, la meditatio. Troisième, l'oratio, la prière. O-R-A-T-I-O. Quatrième, la contemplatio.
Contemplation.
Perdu, oratio, et là, justement, le pape Benoît XVI avait rajouté l'axio, justement, le fait de mettre la parole en pratique. Oui, donc ça, on fait cinq. Hein. Il y a au-dessus, il y a lectio, meditatio, ça vous va? Il faut que j'écris. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus tout à l'heure. Alors.